J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va aller analyser le 13F Filing. C'est effectivement le fichier qui oblige tous les gestionnaires de fonds aux États-Unis qui ont plus de 100 millions d'encours, donc sous gestion investis dans le marché, de publier les achats et les ventes qu'ils ont effectués sur le trimestre. Ce qui nous permet d'avoir toutes les récentes positions de Warren Buffett, de Bill Ackman, de Monish Pavai, de Michael Burry. Là, ça va être assez intéressant. Notamment Warren Buffett qui a investi pour la première fois dans Google. Oui, effectivement. Enfin, alors je dis Warren Buffett, hein, c'est maintenant plus Warren Buffett qui dirige, mais Berkshire Hathaway. Donc voilà, a investi 1,62% de son portefeuille dans Alphabet avec un PRU de $245. Super intéressant. Bah, vous le savez, c'est ma plus grosse position Alphabet. Voilà, j'ai actuellement $56,000 en direct plus 27 000 en plus d'exposition avec les options. J'ai une plus-value qui a dépassé les $50,000 avec la partie option là en latent sur Google. Franchement, c'est incroyable. C'est une énorme conviction. Je suis vraiment content de voir Warren Buffett effectivement initier une position. Bon, alors bon, on va y revenir à la fin. Je vais vraiment vous donner mon avis concret là que j'ai sur Google puisque bah, mine de rien, on est passé de 100 à 150 et de 150 à $300. Donc oui, Warren Buffett est rentré dessus. Mais est-ce que c'est toujours autant intéressant par rapport à ce qu'on peut avoir ailleurs, hors tech, avec des multiples qui sont beaucoup plus raisonnables et des entreprises qui sont beaucoup plus, on va dire, pas prédictibles, mais qui ont un risque-reward ou plutôt qui ont une performance, un potentiel d'expansion beaucoup plus important. Donc on va aller vraiment remettre ça en question. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, j'ai vraiment envie de me focaliser sur deux investisseurs qui sont Monish Pavai. Donc là, c'est vraiment c'est le Warren Buffett indien, entre guillemets, puisqu'en gros, il a grandi en Inde et il est venu aux États-Unis. Il a construit une entreprise, je vous l'ai fait très très rapidement, donc dans la tech dans les années 80, qu'il a vendu à 1 million. Il a pris ce million, il l'a investi tout seul comme un grand en bourse. Donc en 10 ans, il a transformé le 1 million en 10 millions. Ensuite, il a créé un fonds et maintenant il a 1 milliard sous gestion, et c'est vraiment lui qui gère toutes les positions. Il a un portefeuille qui est extrêmement concentré. Son fonds, c'est Wagon Fonds, qui est vraiment sur des thèses d'investissement qui sont toujours les mêmes. C'est des trucs extrêmement cycliques, extrêmement indispensables, typiquement le charbon métallurgique. Là ici, on va aller voir ensemble donc ce qu'il a acheté, parce qu'il a quand même mis 22% de son portefeuille sur Transocean. Et c'est une entreprise qui commercialise des rigs pour les majors pétrolières, Chevron, Total, etc., Exxon. En fait, des rigs, hein, c'est vraiment les plateformes pétrolières que vous voyez en mer pour extraire le pétrole, d'accord ? C'est vraiment des entreprises qui vont les louer. Et en fait, il était de base investi sur Noble et Valaris, ces deux entreprises que je vous avais analysées donc le précédent trimestre, des très très belles entreprises. Mais là, en fait, on va voir pourquoi est-ce qu'il a investi sur Transocean et pourquoi donc il a fait un transfert concret, eh bien, de ces deux entreprises-là dans une troisième entreprise du même secteur, mais avec un positionnement totalement différent, mais qui pourtant a un bilan vraiment pourri. Et également, j'en profite dans cette vidéo pour vous faire un rappel très basique sur la compta d'entreprise, à savoir, eh bien, on va aller voir ensemble concrètement, vous savez, la valeur d'entreprise par rapport à la valeur comptable, l'equity comptable par rapport à l'equity de marché. C'est totalement différent. Et on va aller essayer un petit peu de déterminer la thèse qu'il a eue sur cette entreprise-là qui, en fait, qui concrètement a une dette de 7 milliards, qui a un free cash flow positif mais négatif, qui perd de l'argent chaque année en termes de bénéfices nets depuis 2020, mais qui pourtant, vous allez le voir, quand on va se concentrer vraiment sur la partie rapport annuel, conférence call, management et vraiment la partie, même si j'aime pas trop utiliser ce mot, mais macro, c'est-à-dire la partie quels sont les différents acteurs, quel est le positionnement de Transocean dans le marché sur lequel il opère. Et en fait, on voit qu'on a vraiment une situation sur laquelle on est quasiment sûr d'avoir un business qui imprime de l'argent sur les prochaines années. Mais on va y revenir, d'accord ? Donc ça, c'est super intéressant. Également, Michael Burry, je pense que vous le savez, Michael Burry est en train de shorter Palantir et Nvidia puisque selon lui, la dépréciation qu'ils en ont de leur GPU est beaucoup trop élevée. On pourra faire une parenthèse. Mais là, en fait, ce qui est intéressant, c'est sa ligne Molina Healthcare. En fait, c'est la même chose que UNH, d'accord, donc l'entreprise d'assureurs aux États-Unis, mais vraiment version entre guillemets small cap et version surtout si demain il y a une récession, cette entreprise-là va exploser. Pourquoi ? Très simple, on va le voir ensemble. Molina Healthcare va plutôt assurer les personnes qui sont avec des revenus assez faibles, d'accord ? Donc c'est l'État qui prend en charge ces personnes-là aux États-Unis. Ce qui veut dire que si demain il y a une récession, le nombre de personnes au chômage explose, bah, c'est ces personnes-là qui vont être d'un seul coup, bim, éligibles au programme de l'État Medicaid, d'accord ? Et donc les revenus de ces entreprises-là vont exploser. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment en mode, ok, comment est-ce que je gagne de l'argent si Nvidia, Palantir, la tech s'effondre. Et comment je gagne également de l'argent si on rentre en récession parce que Nvidia et Palantir vont s'effondrer. Avec Molina Elsker, on va détailler cette thèse. Et enfin, Bill Ackman, bon voilà, qu'est-ce qu'il a fait? Il a un peu réduit du Alphabet, du Uber également légèrement, net vendeur, léger. Donc nous, aujourd'hui, ce qui nous intéressait, c'est cette partie-là. Donc là, je vous ai fait vraiment des super slides pour qu'on aille vraiment, en fait, on va aller tout décortiquer ensemble la partie transocéan, puisque c'est quand même une entreprise qui peut-être peut prendre 2, 3, 400% sur les prochaines années. Donc ça, c'est le site internet de transocéan. Effectivement, voilà, c'est vraiment les plateformes pétrolières qui ressemblent à ça. Et voilà où est-ce qu'ils sont vraiment implantés et où est-ce qu'ils vont louer leur rig et leur plateforme. Alors, et justement, Monish Pabrai a décidé de vendre Noble et Valaris pour aller sur rig pour une raison très simple, c'est le type de rig que possède cette entreprise. C'est ce qu'on appelle des rigs ultra deep water et également des rigs dans les environnements hostiles. Mer de Norvège, par exemple, d'accord ? Effectivement, mer de Norvège, vous n'avez pas du tout les mêmes conditions climatiques que vous pouvez avoir au Moyen-Orient, par exemple, où là, il n'y a pas de vent et il y a du soleil tout le temps avec une mer d'huile, d'accord ? Ce n'est pas du tout la même chose. Et en fait, vous allez voir que ça va être extrêmement intéressant puisque vous allez voir comment est-ce qu'un super investisseur raisonne dans ses investissements. En fait, vous allez voir qu'on est très, très loin de « Ok, on va prendre un screener, on va prendre les entreprises avec des marges de 50% ou des marges de 30%, des ROE de X%, on va les acheter bêtement à des multiples délirants. » Non, là, on n'est vraiment pas du tout sur ça puisqu'il a quand même acheté une boîte qui perd de l'argent depuis 4 ans mais qui pourtant, vous allez voir qu'on va détailler la thèse qu'il a, c'est hyper pertinent. Donc, alors déjà, j'ai envie de vous faire une introduction sur qu'est-ce qu'est l'offshore drilling, comment est-ce que ça se passe. C'est très simple. Imagine que le pétrole se trouve sous l'océan, parfois à 3000 mètres sous l'eau, puis encore à 3000 mètres sous le sol une fois qu'on a touché le fond. Donc, on utilise vraiment des énormes plateformes flottantes pour forer à travers l'océan. On a deux types, les jack-up. Donc là, c'est vraiment des choses c'est des plateformes qui vont être mises proches des côtes et c'est là où, par exemple, une entreprise comme Noble est positionnée. Donc là, ça va être des rigs avec des jambes en métal qui descendent jusqu'au fond de l'eau, profondeur limitée 100-150 mètres, typiquement, voilà, Moyen-Orient, Asie, là où il y a des plateaux continentaux. Okay. Donc là, c'est vraiment une table géante posée dans la mer. C'est vraiment ça la métaphore. Donc, et ensuite, on a la partie flotteur, ultra deep water. Donc là, on va avoir deux types, les drillships, navires ultra technologiques et les semi-submersibles, les plateformes flottantes stabilisées. Profondeur 1500 à 3500 mètres d'eau, parfois encore plus. Donc là, c'est vraiment un navire de croisière, ok, donc qui va forer à travers le plancher océanique avec une précision millimétrique. Vous imaginez un navire qui fore à 3000 mètres de fond et qui peut target l'équivalent d'une pièce à 3000 mètres de fond. C'est vraiment une technologie qui est extrêmement avancée. Donc ces machines coûtent entre 600 et 900 millions de dollars par rig. Conséquence, très peu d'entreprises au monde en possèdent. On a vraiment une situation d'oligopole. On a extrêmement peu de concurrents. Qui sont les acteurs? Eh bien, Transocean, Noble Corporation, Valaris, ok? Qui, en fait, a fait faillite Valaris. Il y a eu une restructuration. On va peut-être y revenir. Donc, qui sont les clients? Eh bien, là, c'est vraiment les compagnies pétrolières comme Shell, BP, Total Energy, etc. Par exemple, Total Energy, on utilise énormément tout ce qui va être Brésil ou plutôt Suriname, par exemple. Donc, important, les majors ne possèdent presque jamais leur propre rig puisque c'est une gestion qui n'a vraiment rien à voir. Et en fait, il n'y a pas que ces entreprises-là, vous envoient pas que les rigs, elles envoient également l'équipe avec. C'est-à-dire qu'elles vous fournissent vraiment le bateau avec tous les ingénieurs, tous les mecs qui bossent là-dedans. Et donc vous, quand vous êtes en Total Energy, vous avez simplement à trouver une zone où il y a du pétrole, vous commandez la rig pendant X mois, X années, c'est des tarifs donc par jour. Et là, actuellement, on est entre 400 et 600 000 dollars par jour pour louer ces types de rigs, alors qu'il y a 5 ans, on était à seulement 100 000 dollars par jour. Et vous allez voir que ce tarif peut certainement encore, peut-être quasiment doubler si le baril du pétrole augmente, puisque la construction d'un rig met entre 7 et 5 ans pour les deep ultra water, d'accord ? Ce qui fait que là, si jamais la demande explose, donc la demande parce que le prix du baril explose et que les majors pétrolières veulent forer du pétrole, parce que le baril du pétrole est extrêmement lucratif, le nombre de rigs ne pourra pas augmenter. Donc, offre, demande, les prix vont exploser. Okay, bon, justement, pourquoi ces entreprises existent et quel est le modèle day rate? Donc, qui les loue, qui les paye? Très simple, on l'a vu, les majors pétrolières vont les louer. Ensuite, eh bien, elles vont louer ça à Transocean, etc. Donc, ce modèle permet aux majors de ne pas immobiliser de capital dans des actifs très coûteux. On parle de, encore une fois, entre 600 et 900 millions par rig. Donc, le day rate, c'est le prix par jour pour louer la machine plus l'équipage. Exemple, un drill ship moderne peut se louer entre 400 000 à 600 000 dollars par jour et bien plus en haut de cycle. Et pourquoi les day rates montent ou peuvent monter ou baissent, du moins sont volatiles? Vous avez fait également une énorme masterclass, surtout le secteur vraiment maritime, avec les boîtes vraiment qui construisent les navires, les boîtes qui louent les navires et les boîtes qui, comme Hug Outliner, les possèdent et les exploitent en propre, d'accord. Et en fait, on a vraiment également une énorme volatilité dans le prix auquel pouvait se louer un navire. Bah là, c'est un peu le même esprit, la même philosophie. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre 2014 et 2020, dans ce secteur-là, on a eu littéralement un carnage. Le pétrole est extrêmement bas, on avait une faillite et on n'avait plus aucun financement de nouveaux rigs et donc on avait une flotte qui était vieillissante. Résultat, très peu de rigs modernes disponibles, surtout en ultra deepwater, précisément là où est positionnée donc l'entreprise de Munich Pabrai, mais on a toujours un besoin croissant de pétrole offshore au Brésil, Guyane, Golfe du Mexique. Logique très simple, peu d'offres plus beaucoup de demandes est égal les day rates qui explosent. Donc voilà, le marché est vraiment oligopolistique, très peu d'entreprises possèdent des rigs modernes, il faut entre 3 et 5 ans pour en construire de nouveaux. Quand ils sont financés. 3 et 5 ans, ça c'est pour la partie, enfin 3 c'est plutôt pour la partie jack-up et 5-7 ans pour la partie UDW, Ultra Deep Water. Ok, synthèse des acteurs sur cette partie-là. Transocéan, spécialisé, flotteur et deep ultra water. 100% de sa flotte est là-dessus. Okay, techno premium, barrière à l'entrée, pricing power en haut de cycle. Le risque de l'autre côté, c'est qu'on a un bilan beaucoup plus endetté, une sensibilité au day rate et également une partie capex réactivation, c'est-à-dire en fait, on va stocker des rigs. Et en fait, quand on les stocke et qu'on a une entreprise qui veut l'utiliser, en fait, c'est quand même un truc énorme. Donc, il faut le transporter, etc. Enfin, c'est pas évident. Et donc, quand on parle de réactivation, c'est la thune qu'on va devoir y remettre pour relancer cette partie-là. Voilà. Donc là, c'est vraiment le Ferrari des rigs deepwater. Noble Corporation, on est beaucoup plus diversifié. Et enfin, Valaris, on est encore plus diversifié avec une flotte encore plus grande de ce côté-là. Ok, ensuite la partie synthèse, vous l'avez compris, jack-up, flotteur, vous mettrez sur pause. Toutes ces slides-là d'ailleurs sont disponibles dans mon groupe School que vous avez en description. Il y a 6 heures de formation sur la partie rapport annuel, option, toute une partie checklist, toute ma méthode de valorisation, vous aurez tout en description. C'est un truc totalement gratuit, c'est totalement offert, vous avez juste à mettre votre adresse email et vous aurez directement accès à tous les modules de formation, c'est en description. Et donc vous avez également une section avec toutes les slides, tous les secteurs que j'ai pu analyser sur ma chaîne YouTube. Ok, donc alors maintenant on va aller se focaliser sur la partie vraiment la thèse macro que l'on vient de voir sommairement. C'est-à-dire 2014-2020, effondrement. On a le prix des rigs qui ont été divisés par 3 à 5. On a eu des faillites en cascade, Seadrill, Valaris, donc qui a été restructuré. Les banques ont coupé tous les financements, évidemment, et aucun rig moderne n'a été commandé. Conséquence directe, décennie sans capex significatif, flotte mondiale vieillissante et figée, consolidation forcée, fusion-acquisition, donc Valaris, perte d'expertise également parce qu'on recrute moins d'équipage, moins d'ingénieurs, c'est exactement, ça me fait penser à la partie nucléaire en France. Bon, voilà, c'est vrai que quand il n'y a plus d'investissement, forcément les gens se dirigent moins là-dedans, d'accord. Donc deuxièmement, on a l'offre structurellement qui est bloquée, voilà, quasi zéro rig neuf en construction, flotte mondiale qui est réduite, capacité de construction navale réorientée, ils ont préféré faire des éoliens offshore. Bon, le problème c'est que en fait il faut quand même du pétrole, parce que les éoliens, évidemment, quand il n'y a plus de vent, ça ne fonctionne plus. Et ça coûte une fortune. Donc, la partie contrainte structurelle, construire un rig moderne, ça coûte extrêmement cher. On a des délais de construction, des financements quasi impossibles sans contrat garanti, sans une partie backlog, et on y arrive. On a également un focus ULG des banques qui font que les banques ne veulent plus prêter pour ce type d'investissement-là, quand bien même c'est extrêmement rentable. Le résultat, c'est qu'on a une offre qui est bloquée à court, moyen terme, même en lançant un programme de construction aujourd'hui, parce que si demain, par exemple, le prix du baril explose, ou si demain, on a une demande beaucoup plus importante, eh bien, il faudra tout de même entre 5 et 7 ans pour délivrer les prochains rigs, ce qui ferait que les day rates exploseraient. Ok, ça, c'est vraiment la partie thèse. Ensuite, la partie besoin deepwater des pétrolières. La tension du marché et day rate en vote. En fait, toute la thèse est extrêmement simple. Depuis 2022-2023, les majors pétrolières se heurtent à deux réalités. Le schiste US qui ralentit, déclin plus rapide depuis, entre guillemets, CF, l'analyse de 1 heure que je vous ai fait sur Texas Pacific Land. Et la partie, gisement, entre guillemets, facile, qui ont été majoritairement déjà exploitées. Donc, où est le pétrole rentable, massif et stable? En deepwater, notamment Brésil, Guyane, Golfe du Mexique, Afrique de l'Ouest et mer du Nord. D'accord? Et comme il n'y a pas de rig neuf disponible, une seule solution, bataille féroce pour louer les rigs high-spec existants. Ce qui fait que ça, c'est les chiffres officiels que j'ai repris. On est passé en 2020 à peu près, donc par jour, la location de ce type de rig coûtait 150 000 $ par jour. Aujourd'hui, on est à 650, quasiment 600 000 $ par jour. On a eu une explosion, d'accord ? Donc, les marges ont explosé, ok ? Voilà. Donc, les rigs de 7e génération, les plus modernes, sont ceux outre-océan. Donc, rig est ultra exposé. Donc, c'est ça vraiment la thèse de ce côté-là. Ok, alors maintenant, on va aller voir pourquoi oligopolistique rime avec, évidemment, pricing power plus la thèse pas braille. En fait, c'est vraiment, c'est du grand moniche pas braille. Pourquoi ? Parce qu'on a un secteur qui est détesté, on a une flotte qui sous-investit, on a un site qui redémarre, on a des actifs qui sont extrêmement rares et qui mettent extrêmement, enfin, beaucoup de temps à se construire, à se fabriquer. Et on a un prix en explosion avec une valorisation. Encore, on va le voir dans un instant. Assez bonne. On l'a vu ensuite, enfin on l'a vu en fait, enfin je vous dis parce que c'est on a vraiment un énorme pricing power puisque voilà, ça met du temps à construire. Les conséquences, c'est que les rigs actuels, eh bien, c'est des actifs qui sont irremplaçables. Les propriétaires, eh bien, ils sont en oligopole naturel et on a une définition parfaite d'un marché sous-capitalisé à offre fixe. Donc, ce qui fait que plus la demande monte au Brésil, que ce qui va être Guyane, tout ce qui va être également mer du Nord, plus les day rates explosent sans possibilité d'augmenter l'offre rapidement. On a un pricing power qui est exceptionnel pendant encore plusieurs années, au moins 5 ans. Okay, et alors maintenant, on va aller voir ensemble pourquoi. Pourquoi en fait Molish Pabraille. Donc alors là je pense que vous l'avez compris, vous avez compris ce que c'est donc vraiment ce secteur là, comment est-ce que ça fonctionne. Vous avez compris les trois acteurs qui sont trois océans pour le ultra deepwater, Noble, il faut un peu des deux, Valaris, ils sont très diversifiés, OK? Alors donc voilà, là et en fait ce qu'il faut comprendre c'est que Transocean est très endetté, Noble ça va, Valaris est un petit peu mieux. Pourquoi est-ce que Molish Pabraille malgré ça, c'est quand même positionné sur Transocean? Mais c'est pour ça que là, on va aller voir en dernier, mais il faut comprendre vraiment la partie levier opérationnel, levier financier qu'offre la dette, d'accord ? Et pourquoi est-ce que c'est vraiment intéressant ? Et pourquoi on peut avoir un transfert vraiment de la partie, voilà, bah, en fait, une explosion de l'entreprise Valio due à la partie equity de marché, market cap qui augmente. Donc, toute la thèse également là-dessus, c'est qu'on a un backlog qui est pas plus élevé, mais qui est beaucoup plus rentable, qui est beaucoup plus qualitatif. On y vient. Le backlog, tout comme la majorité des entreprises comme ça, je vous avais analysé chez Building, donc BSI, c'est une entreprise dans les chantiers navals à Singapour qui est exceptionnelle, qui avait un backlog de 20 milliards, donc qui couvrait vraiment la market cap, etc. C'est vraiment une métrique extrêmement importante qui, je vous l'ai déjà répété 15 fois, c'est vraiment qui est l'argent qui est déjà sécurisé par des contrats déjà signés, encaissables sur les prochains mois, années, au fur et à mesure de la livraison et là au fur et à mesure eh bien, des jours qui passent, d'accord. Une entreprise comme Total Energy, elle arrive, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien elle loue par exemple pendant 3 mois une plateforme pétrolière, donc un rig à Transocean, et ensuite à la fin des 3 mois soit elle peut décider de le relouer à des nouveaux tarifs plus élevés ou moins élevés en fonction du marché. Donc dans l'offshore, les rigs se louent voilà, souvent sur de longues durées à des prix fixés avec des engagements et des pénalités d'annulation. Donc pourquoi c'est le KPI numéro 1? En fait, on a une visibilité de cash, on a une sécurité pour rembourser de la dette, on a une puissance de négociation, on a un levier si les day trades montent, on renégocie. Donc ce que vous devez regarder, c'est évidemment la qualité, c'est pour ça que je vous ai fait une parenthèse là-dessus. Quel est le mix dans vraiment, est-ce que on loue, enfin est-ce que c'est la partie jack-up, est-ce que c'est la partie par exemple ultra deepwater, parce que pour vous donner une idée, la partie jack-up c'est entre 15 et 20% de marge. La partie deep ultra water, c'est entre 40 et 45% de marge. Ça n'a rien à voir, d'accord ? Voilà, là, c'est vraiment… Parce que si vous avez plus de marge et que vous voulez moins de rig, ça veut dire que ben, forcément, la rentabilité par rig est beaucoup plus élevée parce que vous avez des coûts fixes sur la partie rig, ok ? Donc ça, c'est beaucoup plus élevé. Également, ben, la dépréciation que vous en avez est beaucoup moins élevée. Donc, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, voilà, le prix, un backlog à 500 000 par jour est bien plus rentable, évidemment, qu'à 300 000 par jour pour le même rig. C'est logique. Options, extensions possibles et conditions attachées. C'est-à-dire que les options à la discrétion du client peuvent être exercées si le marché se tend. calendrier, le timing des renouvellements des contrats, comment est-ce que ça se passe, et la partie risque, bah, qu'est-ce qui se passe si voilà, un backlog diversifié bah, réduit le risque de défaillance d'un client majeur, parce que en fait, si jamais bah, vous louez ça pendant un an, mais qu'en fait effectivement on a une récession et que le baril de pétrole passe de 60 à 40, bon, très peu possible, mais ça peut arriver, bah, évidemment que ça va être beaucoup moins rentable, les personnes vont annuler les contrats. Oui, vous allez recevoir du cash dû à cette annulation-là quand vous êtes une entreprise comme Rig, mais c'est annulé. Alors maintenant, le backlog, là, je vous ai fait une super animation. Transocean, on voit bien qu'on est bien positionné. Noble, on a un backlog supérieur et Valaris, inférieur. Donc, en fait, Noble, il est supérieur, mais il est beaucoup moins qualitatif que Transocean. Effectivement, Transocean, on a 6,7 milliards de backlog, mais on est à 100% deep et ultra deep water, donc les rigs de 7e génération. On a des day rates très élevés et on a vraiment un repricing à la hausse au renouvellement. Donc, c'est le backlog le plus qualitatif du secteur. Noble, ensuite, on est un petit peu plus élevé au niveau du backlog, mais eh bien, on a un mix entre les flotteurs et les jack-up, moins haut de gamme. Levier moins important sur la hausse des day rates. Donc, voilà, c'est quand même excellent, propre, stable, mais moins explosif si jamais ça augmente, puisque, bah, encore une fois, vous l'avez compris, si jamais ça augmente, il n'y a que Transocean qui va pouvoir vraiment délivrer les rigs, okay, sur cette partie deepwater. Valaris ensuite, diversifié, beaucoup de jack-up, okay, donc c'est un marché, oui, qui est stable, mais on en a beaucoup. On a une expansion partielle au deepwater premium, mais c'est vraiment minime. Et on a vraiment la partie jack-up qui est beaucoup moins tendue que la partie deep ultra-water. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup plus d'offres sur cette partie-là. Okay, donc stable, mais moins exposé au segment ultra-deepwater. Donc pourquoi Manish Fabra privilégie rig ? Eh bien, c'est la qualité avant la taille. Le mix, enfin, leur mix au niveau de rig, Transocean, leur permet d'avoir vraiment quelque chose de beaucoup plus qualitatif. On a une génération de cash qui est bien supérieure à Noble et Valaris. On a un repricing qui est naturel à chaque renouvellement et on a un désendettement mécanique à venir qui, selon Manish Fabra, va vraiment faire augmenter la valeur boursière, puisque si vous avez une entreprise qui a sa valeur d'entreprise qui ne bouge pas mais qui a sa dette qui diminue, bah forcément le multiple auquel va payer le marché en bourse, ça va augmenter, donc la market cap va augmenter, ok. Donc voilà, là, c'est vraiment le marché voit la dette, ok, élevé, oui, c'est très bien. Manish Fabra voit la qualité du backlog et voit qu'en fait, bah, si jamais le marché explose, pendant 5 ans, en fait, il n'y aura que Transocean qui sera positionné. Et donc, les majors n'auront pas le choix que eh bien, de louer beaucoup plus cher. Parce que si une major loue à 600 000 balles par jour, c'est que ça lui rapporte peut-être 3 millions. Donc, même en fait, si on augmente à 1 million, offre-demande, Total Energy va quand même louer les rigs. Ok. Alors maintenant, j'aimerais passer sur les trois réalités d'une entreprise. C'est un petit peu le back to basic compta. Ça fait longtemps que je ne vous fais plus jamais ça. Avant, je vous expliquais souvent ce genre de choses. Donc, alors en fait, il faut savoir qu'on a trois parties, excusez-moi. La réalité économique, bon, le business réel, donc les rigs, les contrats, le cash flow. Ok. Réalité comptable, donc là, c'est bilan actif, passif, equity. Et la réalité boursière, le prix, combien paient les investisseurs. C'est bien beau d'avoir une entreprise qui comptablement vaut 20 milliards, oui, mais si le marché en paye 10, bah, en fait, la réalité boursière, c'est que ce n'est pas à 20, c'est à 10. Okay. Pourquoi ? Vous avez la réponse ensuite dans la qualité des actifs et que le marché anticipe, à tort ou à raison, que cette valeur comptable va diminuer ou n'est pas ajustée à sa fair value. Et alors là où c'est un peu touchy, où les gens se trompent, c'est qu'en réalité, quand vous entendez equity, ça peut soit être equity comptable ou soit être equity valeur de marché en fait en bourse. Quand on parle d'entreprise value, ça peut être l'entreprise value de marché. Donc là, en fait, c'est vraiment le prix en bourse avec la partie dette nette. Donc je m'explique, equity comptable, vous connaissez tous, c'est actif moins passif est égal equity. Là, si on prend du 16 milliards moins 6 milliards, ça nous fait 10 milliards d'equity par exemple. Ok, par exemple, pour Noble, on a une décote ensuite de 50 à 60% par rapport à ce que paie le marché pour cet equity comptable. On a un equity de marché, donc la market cap, de 4,4 milliards. Ça, c'est ce que le marché paie réellement aujourd'hui. Si vous voulez acheter 100% de la boîte, vous n'allez pas l'acheter à 10 milliards, malgré qu'elle vaut comptablement 10 milliards. Vous allez l'acheter à la valeur de marché 4,4 milliards, prix par action fois nombre d'actions. Okay. Rappel de la formule entreprise value, c'est la market cap, okay, donc le prix en bourse, plus la dette nette. Chez Noble, c'est 6 milliards, est égal, donc 10, 11 milliards à peu près, d'accord, 4 plus 6, 10, ok, d'accord, très bien. Ok, maintenant, je vais essayer de vous montrer que quand une entreprise diminue sa dette, vous avez l'intuition que le prix en bourse va repricer cette entreprise-là avec un multiple plus élevé. Et donc, le prix en bourse va augmenter. D'accord ? Comment est-ce qu'on transfère, enfin, comment est-ce qu'on explique cette intuition-là en finance ? C'est très simple. C'est la partie vraiment, voilà, désendettement. Et c'est comment la valeur se dépasse vers l'equity. Si je pense à l'entreprise, une entreprise comme Transocean, qui donc a une entreprise value de 10 milliards. OK. Market cap plus dette, plus la dette. La market cap est de 4 milliards. La dette de 6 milliards. Qu'est-ce qui se passe si, avec le bel cap qu'on a, je l'ai converti, ça fait à peu près 3 milliards de cash. Qu'est-ce qui se passe si ces 3 milliards, on les utilise pour désendetter le business ? La dette passe de 6 à 3. Et qu'est-ce qui se passe si l'entreprise value reste la même ? Parce que bah, finalement, le marché price toujours cette entreprise à 10 milliards en bourse. Mais en fait, dans ces cas-là, on aurait vraiment un transfert de la dette vers l'equity. C'est-à-dire qu'on aurait effectivement un transfert. Donc, de base, les créanciers ont 6. Maintenant, ils n'en ont plus que 3 milliards. Et de l'autre côté, on a les actionnaires qui en avaient 4. Donc, le prix en bourse, la market cap, maintenant est passé à 7. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est impossible de prévoir comme ça l'augmentation de la market cap. Alors, vous avez raison. Mais c'est justement, en fait, toute la logique, c'est de se dire que bah, si jamais toute chose est égale autant par ailleurs et qu'en fait l'entreprise annuelle ne bouge pas, mais que le business se désendette, ben naturellement le marché va repricer en termes du multiple et donc les multiples, ça se passe par l'augmentation de la market cap, d'accord ? Donc c'est comme ça qu'on peut se dire bah, que tiens, si jamais globalement l'entreprise annuelle ne change pas, mais que le business se désendette, eh ben en fait ça se transfère directement sur l'equity, donc en bourse avec un multiple qui augmente avec une entreprise qui augmente, puisque fondamentalement la boîte, c'est toujours la même. C'est-à-dire qu'elle a toujours le même nombre de rigs, etc. Sauf qu'elle a utilisé la dette pour se dérisquer. Donc, le marché voit moins de risques. Okay, donc là, effectivement, la taille du gâteau, l'entreprise value ne change pas, mais c'est la répartition qui change. D'accord ? Donc, le désendettement plus le repricing des contrats est égal transfert mécanique de valeur des créanciers vers l'equity. Okay, et donc, c'est comme ça que Monish Pabrai, je pense, a raisonné. Il s'est dit, bah tiens, oui, c'est plus endetté, mais on a des backlogs qui sont sûrs sur les 4 prochaines années. Sur les 5 prochaines années, on sait qu'on ne pourra pas sortir de nouveaux rigs. Donc, si jamais le baril explose, on a un upsell énorme avec vraiment une rentabilité qui va exploser. Et dans ces cas-là, eh bien, en fait, comme la dette va diminuer, le marché qui voit aujourd'hui cette entreprise-là comme surendettée et donc qui, entre guillemets, selon lui, enfin, selon le marché, ajuste à raison l'entreprise avec un multiple plus bas, et bien en fait va réévaluer instantanément la thèse puisque on aura en fait ça sera l'entreprise la mieux positionnée puisqu'on aura un désendettement, on aura une situation de monopole et on aura les majors qui n'auront pas le choix de nous louer de prendre nos rigs, d'accord, avec des tarifs très élevés. Donc voilà, c'est un petit peu cette partie là voilà ce qui fait qu'aujourd'hui on se négocie encore alors là, il faudrait plutôt voir, il faudrait mettre un forward, il faudrait calculer avec un forward, mais on se négocie pas cher. Et c'est pour ça que vous voyez que si vous comprenez suffisamment l'entreprise et les enjeux auxquels va faire face l'entreprise selon les différents cas de figure, d'accord, eh bien, vous pouvez valoriser l'entreprise sans le passé, on s'en fout. Juste avec, ok, combien de rigs ils ont, combien ils peuvent en louer, combien de backlog ils ont, qu'est-ce qui se passe si on passe de 600 000 à 1 million de tarifs par jour, d'accord. Bon, ça serait extrêmement cher, hein, d'accord, mais c'est pour vous donner une idée. Et donc, dans ces cas-là, on peut se dire bah, que oui, là, l'entreprise, enfin là, le marché sous-price cette entreprise parce que la dette est élevée. S'ils se désentêtent parce que, avec le backlog qu'ils ont actuellement, si tout le converti, ça fait 3 milliards et qu'en fait, la dette nette passe de 6 à 3, eh bien, le marché serait réévalué. Et si en plus, on se désendette, ça veut dire que tout sera dans le vert pour cette entreprise-là. Donc, le multiple peut vraiment, vraiment, vraiment augmenter. Alors, est-ce qu'on va remonter sur les niveaux de 2008 je ne pense pas qu'on va prendre 4000%, clairement. Par contre, est-ce que vraiment le marché peut repricer cette entreprise-là dans le contexte que l'on a ? Eh bien, en fait, oui. Et après, c'est quelle est la probabilité bah, que simplement, effectivement, le baril augmente un petit peu et les entreprises ont plus besoin de rigs. Bah, voilà, en fait, quand vous allez voir le CAPEX des boîtes comme Total, etc., Exxon, Chevron et BP, vous commencez à avoir un élément de réponse. Et d'ailleurs, cette semaine, j'étais en train de vous préparer une énorme vidéo sur toute ma méthodologie et toute ma stratégie que j'utilise sur la partie small cap. Et clairement, voilà, la méthode que j'utilise sur la partie small cap. En fait, tout est basé sur le concept d'upsell. Concept d'upsell, je l'ai également détaillé dans la partie cours valorisation que vous avez, voilà, encore une fois, dans le groupe School qui est gratuit. Donc, allez le voir, vous irez beaucoup plus clair. Je vais vraiment le détailler davantage sur une prochaine vidéo YouTube. C'est vraiment un élément, d'accord, que votre entreprise peut réaliser mais qui n'est pas encore inclus dans le prix en bourse actuellement, d'accord. Par exemple, B2Gold, l'entreprise minière, L'upsell, c'est le projet Goose. La partie également HTC, donc HTC, c'est Warrior Mid Call, c'est l'entreprise de Monish Pabrai dans HCC. C'est l'entreprise dans le charbon de Monish Pabrai, il y a une énorme partie de son portefeuille dessus. En fait, on a le projet qui s'appelle Blue Creek qui est censé faire exploser la production de charbon. Mais le problème, c'est que là, il commence seulement à être délivré. Et quand on était en début 2025, il n'était pas, le charbon n'avait pas, enfin, il n'était pas encore en production. Donc oui, on savait qu'il allait en production, mais le marché se disait sous-pricé ce projet. Il disait oui, mais comment on n'est pas encore en production, on ne va pas l'inclure dans le prix en bourse puisqu'il n'est pas encore en production. Et donc vous, là, c'est à vous de faire le travail qui est que, ok, bah, quelle est la probabilité que ce projet soit réalisé et soit délivré, quel est le coût que va engendrer ce projet-là, d'accord, et quelle est la rentabilité nette si jamais il est réalisé, quel est l'impact net donc de free cash flow per share sur votre entreprise si jamais il est délivré, d'accord. Et donc c'est pour ça que par exemple, là, si je prends l'exemple là, voilà, avec ce graphique-là, imaginons que là vous avez le temps, là vous avez la valeur, donc là vous avez la marge de sécurité. Donc imaginons votre objectif, c'est d'acheter une entreprise qui, tant que l'upsell n'est pas réalisé, la fair value ne va pas diminuer, va légèrement augmenter. Okay. Et ben, si jamais l'upsell est réalisé, ben là directement la fair value explose parce que le projet Blue Creek, la production de l'entreprise va exploser. Par exemple, Transocean, c'est qu'est-ce qui se passe si effectivement demain, eh bien, le baril du pétrole augmente. Si demain, toutes les majors doivent se ruer sur les rigs de Transocean et les paieront deux fois plus cher. Mais évidemment que la valeur de votre entreprise va exploser puisque voilà, désendettement, le cash, la génération du cash va exploser. Et dans ces cas-là, vous avez vraiment une valeur intrinsèque qui là explose, d'accord. Et c'est là où vous avez des explosions de prix en bourse sur cette partie vraiment small cap, ok. Donc, c'était la petite parenthèse, mais de toute façon, je l'aborderai de nouveau. Alors, bon, personnellement, Rick, moi, je ne rentre pas dessus. Voilà, je ne rentre pas dessus. Je crois que Monish, il est rentré à 3. Ouais, mine de rien, il a déjà au moins 30% de plus-value dessus. Et puis, en fait, moi, c'est pas tellement une question d'entreprise. C'est plutôt que j'ai une énorme position sur Parex Ressources, donc voilà, une entreprise dans le pétrole. Ça charge un petit peu. Donc, ça, c'est vraiment la grosse position que j'ai sur Parex Ressources que j'ai acheté sur les 12 quand également elle était totalement sous-pricée. Et d'ailleurs, Parex Ressources, toute la thèse en termes d'upsale, c'est le projet Big E, l'amélioration de la rentabilité et l'amélioration de la partie exploratoire. Je vous la fais très simple, on a quasiment délivré un 10 sur 10 sur chacune de ces parties, ce qui veut dire qu'on a, sans que le baril du pétrole a augmenté, d'accord, on a simplement eu un rewriting de l'entreprise de 50% et j'ai là plus de 15% de dividendes sur mon prix d'acquisition. Je prends quand même tous les trimestres du 800 balles de dividendes avec d'investis, j'ai mis de base 24 et là j'en ai 37 000 sur l'entreprise. Et également j'ai pas mal renforcé Total Energy le mois dernier sur les 49,9, juste en dessous des 50. Donc, ce qui veut dire que la partie pétrole, voilà, j'y suis déjà quand même bien exposé. Donc je renforcerai, je vais pas acheter Transocean, etc. Mais par contre, je trouve ça toujours super intéressant de, bah, quand vous voyez un super investisseur comme Monish Pabrai qui fait ce type d'investissement-là sur une boîte qui perd de l'argent, allez absolument comprendre pourquoi est-ce qu'il a fait cet investissement-là, comment est-ce qu'il résonne, etc. Et c'est comme ça que vous allez vraiment augmenter votre niveau de compétence, augmenter votre philosophie d'investissement, la thèse que vous en avez, etc. Et c'est comme ça que vous vous améliorez et donc que les performances vont suivre. Et je vois trop de débutants sur Internet être focalisés sur les boîtes tech à 40 fois, 50 fois les bénéfices avec des marges élevées, etc. Ça, c'est très bien, mais sans déconner, acheter un Nasdaq, vous allez faire la même performance. Et puis, c'est pas tellement stimulant intellectuellement. Et en fait, vous retrouvez avec des portefeuilles de 10, 15, 20 lignes qui sont diversifiées mais qui ne sont pas décorrélées, d'accord. Alors que si vous avez un portefeuille et vraiment une partie pétrole, une partie mine, une partie conso défensive, une partie Singapour, une partie small cap, une partie large cap, une partie option, vous avez un portefeuille qui, comme moi, a maximum une quinzaine de lignes avec une énorme surpondération sur les 5 premières et qui, en fait, est extrêmement décorrélé, que vous connaissez parfaitement chaque entreprise sur laquelle vous êtes investi. C'est là où vraiment, eh bien, vous pouvez, quand les marchés baissent, mettre des grosses cartouches, d'accord. Parce que si vous ne comprenez pas votre boîte, que vous savez simplement qu'elle a des marges élevées et que tout le monde l'achète, voilà, en fait, vous allez confondre entreprise, comment dire, connue et entreprise solide. C'est pas la même chose, d'accord. Voilà, et qui plus est, même si elle aurait été solide et connue, ce qui est le cas de la plupart des boîtes tech, on est bien d'accord, est-ce qu'elle va vraiment performer sur les 15 prochaines années? Ça, c'est la question, d'accord. Voilà, donc, ok. Eh bien, écoute, je pense qu'on n'est pas trop mal. On va passer sur Molina Healthcare, l'entreprise donc de Michael Burry. qui, je fais une énorme parenthèse, certainement que le trimestre d'après, il aura déjà tout revendu sur cette entreprise-là, puisque vu, lui par contre, ce n'est pas du tout comme Moïse Pabrai. Hein. Michael Burry, il a une philosophie qui est quand même bien différente. Mais voilà, c'est une boîte qui a perdu 70%. Je vais vous faire un petit peu l'analyse très rapidement, puisque vous avez délivré une masterclass également sur UNH, d'accord, donc l'entreprise d'assurance, sur laquelle je ne suis vraiment pas fan du tout. Mais là, c'est vrai que c'est une entreprise qui est beaucoup plus ciblée sur cette partie, encore une fois, explosion si jamais il y a une récession. Bon, j'ai dû m'absenter une heure, on est reparti, on va directement commencer par analyser donc Molina Healthcare. Vous voyez qu'on a des multiples, là on se négocie à 8 fois les bénéfices alors qu'historiquement on était plutôt au-dessus des 20. On a un bilan qui cette fois-ci est très bon puisqu'effectivement on a une dette nette qui est négative, on a plus de cash que de dette. On a un free cash flow qui s'est effondré et c'est pour ça que le prix en bourse s'est effondré, mais on a tout de même encore aujourd'hui un free cash flow d'un peu plus de 500 millions pour une market cap donc de 7 milliards. Et vous allez voir que selon Michael Burry, bah voilà, cette baisse n'est pas du tout justifiée. Et on est vraiment dans le cas de figure, selon lui, d'un investissement qui se fait sanctionner par le marché parce que les problèmes sont importants, mais ils sont surtout sur du court terme et que c'est vraiment inhérent au secteur. C'est-à-dire que dans ce secteur-là, il y a souvent une différence, plutôt un lag, donc un temps de latence. Si jamais en fait les patients que vous avez vous coûtent plus cher, le gouvernement va mettre du temps à augmenter les premiums, donc à augmenter les prix. Donc pendant ce temps-là, avant que le gouvernement augmente les prix, vous avez votre rentabilité en tant qu'assureur santé qui vraiment qui disparaît totalement au niveau de la marge que vous en avez du business. Et ici justement, je vous mettais United Health Group qui a baissé qui pareil se négociait avec un PE de 16, donc ça c'est intéressant. Ça c'était l'analyse que j'avais fait de UNH il y a quand même pas mal de temps maintenant avec tout le business, donc les premiums, la partie product, la partie service qu'ils ont dans le business, etc. Avec la partie médicale, loss ratio, bon évidemment c'est toujours, alors cost ratio, loss ratio, c'est deux mots pour dire la même chose, donc voilà, je l'ai rectifié, mais c'est toujours la même chose. Donc, c'est pour ça que ça va être les mêmes ratios sur cette entreprise-là. Alors, donc, là, ici, concrètement, qu'est-ce que c'est ? Molina, c'est vraiment un assureur santé US spécialisé dans Medicaid. Également, la partie Obamacare, Medicare. Donc là, c'est pour les populations modestes et également plus âgées. Le positionnement, on est vraiment sur un pure player du Low Income Health Insurance, donc versus United Health, qui est plutôt un énorme conglomérat où ils ont tous les médecins qui vont travailler pour eux, etc. Bref, United Health, c'est vraiment énorme. C'est un écosystème à lui, à eux seuls. Donc la partie modèle économique, là c'est très simple, voilà, tu paies l'hôpital, tu te fais rembourser par l'État et ton job en tant qu'assureur, c'est vraiment que les coûts médicaux soient inférieurs à ce que l'État te paie ou par exemple pour une utile healthcare, à ce que les entreprises privées également leur paient. Mais là vraiment, Molina, c'est quasiment exclusivement l'État qui les paye, d'accord ? Donc la marge, c'est la différence entre la prime reçue de l'État, d'accord, et le coût médicaux que tu vas payer quand les patients que tu as à ta charge vont tomber malades. Donc le métier, gérer l'assurance maladie des populations pauvres aux États-Unis, être payé par les États pour couvrir des patients à faible revenu, modèle, voilà, gagner des appels d'offres, donc RFP, Request for Proposal, pour gérer donc les programmes Medicaid. Qualité du business, ultra récurrent, piloté par des contrats publics multi-annuels, difficile à disrupter parce qu'effectivement, c'est vrai que cette partie de la population, ce n'est pas politiquement correct de diminuer l'assurance santé des populations qui sont au chômage, etc. Donc c'est vrai que là-dessus, ils ont entre guillemets un certain mot de ce côté-là. Et la partie revenu garanti, contrat d'État, voilà, pour gérer les programmes, population défavorisée, la partie Obamacare et également, la visibilité, elle est extrêmement forte sur les revenus et on a également une variable sur coûts médicaux, c'est pour ça qu'actuellement ça baisse un petit peu. Alors pourquoi on voit cette entreprise-là chuter de 65% et pourquoi Michael Burry charge à plus de 40% de son portefeuille ? Eh bien parce qu'en fait, pareil, le marché, qu'est-ce qu'il voit ? 3 warnings de résultats en quelques mois, on a eu pareil sur UNH, une explosion des coûts médicaux, on a eu pareil sur UNH, le medical loss ratio qui est trop élevé, le parti Obamacare qui est devenu déficitaire et l'earning per share qui a été slashé de 40%. Donc, le diagnostic marché, est-ce qu'il est faux ? Pour l'interrogation, Michael Burry, lui, il pense qu'il est faux. Eh bien, c'est que c'est un problème structurel. Le marché se dit les marges ne reviendront jamais. Bon, Michael Burry, lui, c'est l'inverse. Il pense que justement, ça va revenir et qu'en ce sens, on a un potentiel de plus de 100%. On va faire la valorisation dans un instant. La réalité, selon Michael Burry, eh bien, c'est un problème de timing, pas de business model cassé. Les coûts médicaux ont explosé plus vite que la hausse des primes remboursées par les États. Et donc, c'est exactement ce type de distorsion que Michael Burry adore. Donc, sa thèse, c'est très simple. Un business structurellement solide, pris dans un chaos, on va dire, conjoncturel. Bon business temporairement détruit par panique, mauvaise lecture, distorsion court terme et mauvaise extrapolation. Deuxièmement, on a une asymétrie qui peut potentiellement être exceptionnelle, c'est-à-dire qu'on est passé de 20 fois les bénéfices à 7, 9 fois les bénéfices, un simple retour à 12 fois sur l'earning per share, si on normalise ça à ce qu'on avait, on a un re-rating qui est vraiment extrêmement violent. Donc on a vraiment un cas potentiel de 100, 200, 300%. Si le marché a tort, triple effet positif, normalisation des coûts, les marges vont remonter directement avec donc le medical loss ratio. La partie tailwind démographique, c'est-à-dire que si jamais on a également plus de personnes au chômage, on en bénéficie. Et on a une partie retour des guidance qui ferait que l'anticipation que peut avoir le marché serait beaucoup plus optimiste. Donc le business model, c'est très simple, unit économique simplifié, l'État te verse 100, le coût du patient c'est 88, tu prends 12 dollars et une marge de 12%. Ça c'est vraiment le truc de base, ce qu'ils ont habituellement. Qu'est-ce qui s'est passé? Là l'État leur a versé toujours 100, sauf que le patient leur a coûté à peu près entre 96, enfin là c'est exactement 96,5 sur le précédent quarter, donc évidemment la marge brute est instantanément compressée. Donc voilà, encore une fois le problème, enfin ça c'est la point d'interrogation, moi je suis moins sûr que Michael Burry, mais selon moi Michael Burry, le problème n'est pas le business model, mais le décalage temporaire entre la hausse des coûts et l'ajustement des primes par les États. Bien que ça, je suis également d'accord. C'est est-ce que l'État va réellement ajuster aussi rapidement ou est-ce que l'État va simplement dire « Bon, écoute, 12% de marge est peut-être un petit peu trop élevé pour le type de business que tu as. Donc, en fait, à partir de maintenant, tu vas avoir des marges de 5%. Donc, c'est-à-dire que tu vas toujours pouvoir faire de l'argent, mais tu en feras moins qu'avant. D'accord ? Tu seras moins rentable qu'avant. C'est peut-être ce qui va se passer. Et en ce sens, si c'est ce qui se passe, si ce scénario-là se passe, bah là, pour le coup, le marché pricerait correctement l'entreprise actuellement, tout comme UNH. Okay ? Bon, ça, je passe. Hein, vous mettrez sur pause, mais c'est ce que je viens de détailler. Alors, les six upsales là, qu'on a actuellement, donc les catalyseurs potentiels, normalisation donc, voilà, du medical loss ratio, donc le plus important. Alors d'ailleurs, qu'est-ce que c'est le medical loss ratio? C'est extrêmement simple. Hein. C'est vraiment les dépenses médicales, d'accord, divisées par les primes encaissées. C'est très simple. Là, par exemple, UNH, j'avais pris les chiffres à l'époque. Si on encaisse 1 000 $ de primes, enfin j'avais mis une proportionnelle, et qu'on dépense 850 en soins, eh bien, on a du 85%. Okay, donc effectivement, si le medical loss ratio passe là, de 95 à 88, 90, voire un petit peu moins, on a l'earning per share qui va réaugmenter, le marché va réévaluer la thèse, etc. Et on va avoir le retour de la machine à cash, on va dire historique du business. Deuxièmement, on a un ajustement tarifaire, donc un pricing. Les États réaugmentent quasiment toujours les primes quand les coûts médicaux explosent pour éviter que les payeurs quittent le système. Donc précisément que ce type d'entreprise-là se dise c'est plus assez rentable pour nous, on fait autre chose, du moins on le fait pas bien, etc. Troisièmement, gain de contrat Medicaid. Donc là, voilà, ils sont extrêmement agressifs pour ils sont parmi les meilleurs pour la partie donc appel d'offres. Donc si on a, s'ils arrivent à augmenter cette partie-là par rapport aux concurrents, avoir plus d'appels d'offres, donc plus de contrats, etc., etc., ça serait mieux. La partie buyback, si on fait des buybacks auprès de Shell, vous doutez bien que ça peut être extrêmement pertinent si jamais le prix en bourse remonte par la suite. Et également la partie re-rating sectoriel, c'est-à-dire que là, en fait, le marché réalise que, eh bien, le problème n'est pas structurel. UNH et les autres normalise aussi, toutes les boîtes d'assurance se cassent la gueule sur la partie santé, d'accord. Donc les coûts médicaux ralentissent, le secteur entier re-rate, et donc voilà, là actuellement on a Molina qui est le plus massacré, et donc si jamais on a re-rating, ce serait cette entreprise là qui en profiterait le plus. Et la partie, voilà, pareil, récession, si on a une récession, eh bien ça serait extrêmement positif pour cette entreprise, puisque voilà, on aura plus de membres, un volume assuré plus important, un revenu récurrent garanti par l'État. Et ce serait un des rares business qui performe en période de stress économique. Par contre, les risques à surveiller, perte de contrat Medicaid, ce serait vraiment pas bon, surtout dans l'état actuel des choses. Un retard prolongé du repricing, pareil, plus on reste avec cette rentabilité mauvaise, plus ça pénalise le business. Réforme politique agressive, ça je sais pas ce que ça peut donner. En fait, c'est pour ça que moi, ce type de secteur, j'en suis pas très très fan, puisque vous avez bien plein en fait de variables qui peuvent rentrer en compte, et chacune des variables peut impacter quand même assez de manière assez conséquente le business. Si on perd un contrat, un gros contrat, ça peut être catastrophique. Si le repricing met du temps, ça peut être également catastrophique. Si on a un choc médical, ça peut être catastrophique. Si on a une réforme politique, ça peut être catastrophique. Il fait quand même quatre métriques qui peuvent impactés ou qui, du moins qui peuvent garder cette valorisation au plancher sur l'entreprise. Donc c'est pour ça que c'est pas si simple que ça. Et pour ce qui est de la valorisation, enfin les différents scénarios, si par exemple bear case, qu'est-ce qu'on aurait? On a le medical loss ratio qui reste très haut pendant 2 à 3 ans. C'est-à-dire que pendant 2 à 3 ans, le gouvernement aux États-Unis dit bon ben, on est déjà suffisamment endetté, on va pas vous faire de fleurs, vous avez simplement voir votre rentabilité qui va diminuer et si jamais on a un peu plus d'argent dans les caisses de l'État, oui, on vous redonnera des prémiums un peu plus élevés. Dans ces cas-là, eh bien, on aurait vraiment un prix cible autour de 120-150. Actuellement, on est à 130. Donc, ça, c'est vraiment le scénario baissier. Ensuite, le best case, ça serait le plus probable selon McElbury. On a une normalisation progressive, c'est-à-dire que progressivement, on retourne vers les 86, 88, 90 au niveau donc, du ratio. On a un earning per share qui forcément réexploserait. Un multiple qui reviendrait vers les 12-14. Et dans ces cas-là, on aurait un prix qui ferait quasiment 70 à 110%. Et enfin, le bull case, là, ça serait vraiment une réaccélération plus les demandes d'appels d'offres qui augmentent, plus les buybacks, plus vraiment la partie également medical loss ratio eh bien, qui se normalise totalement, je ne sais pas, 86. Dans ces cas-là, directement, on reviendrait sur un multiple d'avant problème, à savoir du 18, du 20. Et dans ces cas-là, on aurait un prix qui reviendrait sur les 350, 450, ce qui nous ferait du x2, x3. C'est vrai que le prix actuel prend déjà le bear case quoi, ce côté-là. Mettez-moi, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, je sais qu'il y a plein de personnes, je pense, qui sont sur UNH. Qu'est-ce que vous pensez de Meliona? Molina, excusez-moi. Est-ce que vous pensez que, ben, justement, ça peut être plus intéressant que UNH? Ou est-ce que, justement, vous voulez jouer la carte, on va dire, conglomérat de UNH qui est vraiment intégré de toutes parts? Plus le temps avance, plus ils sont encore une fois intégrés. Ou alors, est-ce que voilà, ça vous intéresse d'aller vous nicher sur un petit acteur qui... Voilà, bah, il est beaucoup plus niché sur un certain type de population qui va réagir à un certain type de contexte économique, à savoir une récession si on en a une par exemple. Moi, je trouve que les deux sont intéressants. Personnellement, j'en ai aucun des deux en portefeuille. Mais voilà, les deux sont intéressants et je trouve vraiment une... Enfin, encore une fois, c'est des thèses intelligentes. Hein. Franchement, c'est vraiment des thèses intelligentes. Alors d'ailleurs, je me suis mis directement sur le site officiel de la SEC, Security Exchange Commission, pour aller voir le 13F officiel. Donc en fait, là, vous avez le détail. Enfin, là, c'est la petite partie. Vous avez le détail des calls et des puts. Et ce qu'ils sont passés en direct. Donc là, effectivement, Molina, eh bien, donc il a 24 millions et il est passé en direct. Call put, il n'y a rien. D'accord. Par contre, effectivement, la partie Palantir, c'est avec des puts. La partie Nvidia également. Pfizer, il a acheté des calls dessus. Et ça également, il a acheté des calls là-dessus. Voilà. Donc tout le reste, c'est en direct. Donc voilà. Écoutez, encore une fois, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi quand même je pourrais tenter de Molina ou encore une fois Ray, mais je n'ai une grosse exposition sur le pétrole. Après le problème c'est que c'est vraiment le secteur qui me pose un peu des problèmes et j'ai quand même une philosophie d'investir dans des business qui sont extrêmement simples. Quand je dis simple c'est voilà du charbon, du pétrole, ça c'est du simple, du Google même. Et alors Google c'était pas tellement le business qui était simple, c'était plutôt la valorisation qui était évidente, d'accord, qui était complètement débile. Ouais, Google, c'est dingue. C'est vrai que même quand j'avais acheté tous mes calls, là, ici, que j'en ai gardé qu'un seul, j'en ai revendu deux, ça se payait 16 fois les bénéfices. 16 fois les bénéfices, quoi. Enfin, où est le risque d'acheter une boîte à 16 fois les bénéfices? Et c'est pas après coup, c'est sur le moment où j'en avais mis quand même pas mal de primes sur des contrats de long terme, quoi. Donc voilà. Également, évidemment, hop, c'est ici. Vous avez donc voilà, mon groupe school qui va être en description avec toute la partie vraiment valorisation, etc. Toute la partie rapport annuel, les rates, les formations options, la partie ratio financier, la partie analyse sectorielle, etc. Donc voilà, vous avez la totale ici. Je vous mets ça en description. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Léo. Ciao.